Europe 1, Paris Match, JDD, la semaine politique. Céline Géraud.
Bonsoir, ravi de vous retrouver dans quelques instants la semaine politique et à 19h30, l'invité politique, le député LR Julien Aubert. En attendant, Europe 1, il est 18h. L'essentiel de l'information avec vous. Bonsoir Hélène Zélani.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous. C'est une page qui se tourne en ce vendredi 13 mai à minuit, fin officielle du premier quinquennat Macron. Ce n'est pas pour autant qu'il faut s'attendre à un remaniement ce week-end, puisque c'est toujours en tant que Premier ministre que Jean Castex se rendra dimanche au Vatican. Une délégation de jeunes sportifs ukrainiens reçus cet après-midi à l'Élysée, âgés de 15 à 18 ans. Ils vont ensuite rejoindre Deauville en Normandie, où se tient la gymnasiade qui va rassembler quelques 3600 ados pour des compétitions internationales. Après le décès de deux enfants, une information judiciaire pour homicide involontaire ouverte contre le groupe Buitoni. Un juge d'instruction va donc enquêter sur ces pizzas surgelées contaminés à la bactérie E. coli. 54 autres cas ont été répertoriés. Première conversation téléphonique entre les ministres de la Défense américains et russes depuis le début de la guerre. L'américain a demandé un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Pour sa part, l'Union européenne s'est engagée à apporter une aide supplémentaire d'un demi-milliard d'euros à Kiev, soit 2 milliards au total. En revanche, les 27 n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur l'arrêt progressif de leurs achats de pétrole russe. Difficile de comprendre où veut en venir Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX. A d'abord suspendu le rachat de Twitter parce qu'il voulait en savoir plus sur les faux comptes sur le réseau social. L'action a directement plongé de 25%. Il a finalement assuré vouloir mener à bien la transaction. Et puis le prochain film des Inconnus sera réalisé par Riyad Satouf, auteur de la bande dessinée L'Arabe du Futur. Un film qui devrait sortir fin 2023, début 2024 et dont pour l'instant on ne connaît pas le titre.
Merci Hélène Zélani et à tout à l'heure pour le grand journal de 19h.
Europe 1. La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Céline Géraud.
Allez, bienvenue à bord. La semaine politique, on est ensemble jusqu'à 20h. Le temps de décrypter les sujets qui font l'actualité avec Jacques Serret, journaliste au service politique d'Europe 1. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Céline.
Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut Sondage IFOP pour Paris Match ce soir.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
Et puis Stéphane Albouy, le tout nouveau directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. Bienvenue à bord.
Merci, bonsoir Céline.
C'est votre bizutage un peu ce soir.
Absolument.
Et je suis ravie d'être là avec vous pour ça. Pourquoi ? Parce qu'on va ouvrir cette semaine politique avec l'annonce de Jean-Luc Mélenchon. C'était hier soir à Marseille, à l'occasion d'un apéro de l'Union Populaire, le leader des Insoumis annonce qu'il ne se représentera pas aux législatives dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, où il s'était largement imposé en 2017. On l'écoute.
Alors, monsieur Mélenchon, pourquoi vous n'êtes pas candidat à la législative ? Que c'est Bompard qui va être candidat. Je vous le confie. Dans les Insoumis, c'est une des figures parmi les plus éminentes de la nouvelle génération. Il faut les lire.
Il faut les lire. Pourquoi ? Ben, il ne répond pas à la question et finalement il refile quelque part le mistigris à son directeur de campagne, Manuel Bompard. Jacques Serret, est-ce la bonne stratégie selon vous ?
Je pense que oui, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est la bonne stratégie. C'est quand même un homme politique qui a 70 ans aujourd'hui, qui a plus de 30 ans de mandat parlementaire. Là, il est arrivé à un stade où il a réussi ces dernières semaines à instiller l'idée qu'il pourrait devenir Premier ministre, même si on a du mal à l'imaginer. Et au final, c'est une manière pour lui de, même si cette circonscription est plutôt favorable aux Insoumis, de prendre aucun risque, mais zéro risque en cas de non-réélection dans cette circonscription. Et puis, si la NUP, la nouvelle alliance à gauche, parvient à avoir une majorité de sièges, qui est là aussi peu probable, mais imaginons dans lequel ça se produit, il pourrait, et en tout cas, il espère prendre ce poste à Matignon dans les prochains mois.
Stéphane Albouy, pour le JDD.
Oui, alors, zéro prise de risque, je ne sais pas. En tout cas, il y a une volonté. D'abord, il nous préparait depuis quelques semaines quand même à ça. Hein. Il préparait le terrain, il avait laissé entendre qu'il n'y retournerait pas forcément.
Il zigzaguait un peu quand même.
Oui, hein, il avait dit, d'ailleurs dans le cadre d'une interview qu'il nous avait donnée, que son autorité était essentiellement idéologique. Il n'a pas besoin aujourd'hui, compte tenu de sa très longue carrière...
Et de ses ambitions de Premier ministre aussi.
Absolument, d'avoir cette légitimité liée à un mandat de député. Et puis, il y a aussi une volonté, d'une certaine manière, de se mettre un petit peu, de se rehausser et de se mettre au rang même du président, puisqu'il s'affiche dans un deuxième combat, finalement, face à Emmanuel Macron. Et en sortant de la bataille des législatives, il pense, en tout cas, se dégager de la meute, d'une certaine manière, de s'élever et de se mettre face à Emmanuel Macron.
C'est incroyable ce que vous dites. C'est-à-dire, pour vous, il a une posture un peu au-dessus de la mêlée.
Oui, c'est ce qu'il cherche
genre,
à faire.
Et genre, je laisse le sale boulot
c'est, je
à
pense,
mes,
ce qu'il cherche à faire, en tout cas, en termes de positionnement.
Frédéric
oui,
Dabi,
je partage ce que Stéphane a dit. Ça participe, si j'étais moins gentil que Stéphane, du brouillage qu'entretient Jean-Luc Mélenchon entre les deux scrutins présidentiel et législatif. Ce sont des scrutins différents. On sait que les législatives sont maintenant très fortement indexées sur la présidentielle, puisque depuis l'inversion du calendrier électoral, ce scrutin a perdu son autonomie et il y a ce qu'on appelle l'effet souffle de la présidentielle sur les législatives. Qu'est-ce que dit Jean-Luc Mélenchon au soir des victoires d'Emmanuel Macron ? Il a été mal élu. On va préparer le troisième tour de l'élection présidentielle, qui n'existe pas, comme vous, tout le monde le sait. C'est le premier tour des élections législatives. Là, il peut dire, oui, je vais être Premier ministre, mais je ne suis pas obligé d'être député pour être Premier ministre. On a bien vu, hein, il y en avait plusieurs dans l'histoire, même si c'est minoritaire, des non-députés choisis comme Premier ministre.
Oui, mais des chefs de parti, c'est une autre histoire.
C'est relativement différent. Alors, je ne sais plus si en 93, Jacques Chirac avait été réélu comme député. En 86, mais c'était la proportionnelle. Mais en tout cas, voilà, il contribue à brouiller les cartes. Il sort effectivement un peu du jeu. Il faut dire aussi que la greffe n'avait pas très bien pris avec les locaux à Marseille, qu'il ne venait pas non plus extrêmement souvent. Et c'est vrai qu'il a maintenant plus l'image et la stature d'un député de base. Mais il a dit aussi quelque chose d'intéressant qui participe au brouillage dont je parlais. Il a dit... pas besoin de légitimité législative puisque j'ai obtenu 7 700 000 voix à l'élection présidentielle. Là aussi, on a cette confusion, il faut dire ce qui est, entre légitimité présidentielle et légitimité issue du scrutin législatif.
Et il a donc refilé la patate chaude, en quelque sorte, à Manuel Bompard.
Très proche, plus que proche.
36 ans, député européen, son directeur de campagne depuis 2019, député européen. Il était déjà venu ces derniers mois prendre ses marques dans la circonscription marseillaise. Il a d'ailleurs décidé de déménager, hein, Manuel
Bompard. Il a été élu à Toulouse, hein, il y a quelques années.
Oui, c'est ça. Justement, il quitte Toulouse pour s'installer à Marseille. Et écoutez-le.
C'est peut-être une page qui se tourne pour en ouvrir une nouvelle. La nouvelle page qu'on a envie d'écrire, c'est la page de Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Et c'est la page, c'est pas pour nous qu'on le fait, mais la page d'une situation qui change pour les Françaises et les Français.
Parachutage, héritage, voilà. Là, on est vraiment dans le « en même temps », hein, pour lui, hein.
Oui, c'est le en même temps. Et pour revenir à Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'au-delà de penser à Matignon, je pense qu'il ne se fait pas trop d'illusions, mais il passait déjà peu de temps finalement dans sa circonscription à Marseille. Et je pense qu'il anticipe déjà les prochaines semaines, les prochains mois, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle force politique qui vient de se créer à gauche et il va falloir avoir qu'un leader prenne position pour gérer cette nouvelle alliance. Je pense qu'il veut prendre cette place et clairement, c'est compliqué de gérer à la fois une force politique qui est en train de se former et une circonscription où déjà il avait déjà du mal à passer du temps.
Et en même temps, mais il dit aussi qu'il faut préparer la suite. Je ne suis pas éternel, je vais partir. Frédéric Dabi, voilà. Alors c'est assez contradictoire parce qu'il veut rester dans la course et en même temps.
C'est vrai, comme l'a dit Jacques, c'est un très ancien homme politique. Il a été élu sénateur, un des plus jeunes sénateurs français, ministre sous le gouvernement Lionel Jospin, etc. Il avait été élu pour la première fois sur son nom en 2017. Et donc c'était une première.
Avec un score colossal,
Loin de 60%. Une réception socialiste, celle de Patrick Mennucci, un proche de Ségolène Royal à l'époque. Maintenant, c'est vrai qu'il envoie des signaux contradictoires. D'un côté, c'est vrai, c'est ma troisième et dernière campagne présidentielle. Il dit qu'il a une équipe assez formidable de la France Insoumise, notamment son groupe parlementaire. Il les a beaucoup mis en avant pendant la campagne présidentielle, comme s'il avait intériorisé que son image avait été un petit peu écornée, mais qu'il y avait son programme et l'équipe qu'il avait. Maintenant, on sait de quoi demain est fait. On sait que ces politiques ne meurent ou ne s'arrêtent jamais. Quid d'une quatrième candidature en 2027 ? Personne ne peut le dire, mais ça ne paraît pas un scénario complètement improbable.
Stéphane Alboui pour le JDD.
Non, c'est effectivement pas totalement improbable. Effectivement, il va sans doute avoir du mal à raccrocher. Pour revenir à Bompard, c'est quand même un proche des proches. C'est celui qui a fait quand même la réussite de ses deux dernières campagnes. C'est quelqu'un qui s'est montré très inventif, qui a innové dans une campagne, d'un point de vue technique aussi, technologique, je dirais, avec ses meetings un peu particuliers. Il a joué un rôle très important là-dedans. Et il fait partie de ce nouveau personnel politique que l'ancienne France Insoumise a fait émerger. C'est vrai que dans les autres partis, il y a peu de figures que l'on voit apparaître finalement. Et il le met aussi en avant pour assurer aussi la succession, la gestion à l'intérieur même du parti. Ce qu'il fait déjà, parce que Bompard était quelqu'un d'un peu de l'ombre, mais qu'on voyait de plus en plus ces dernières années.
Plus en plus présent.
Et qui est vraiment qui est vraiment un rouage essentiel depuis très longtemps pour Mélenchon.
Et pourtant, il ne fait pas l'unanimité sur le terrain. En tout cas, les militants, j'ai pu les croiser hein, lors de ces élections. Et on sentait que voilà, il faisait, c'était pas vraiment la bonne personne. Ils étaient plus proches finalement d'un Ruffin, d'un François Ruffin, qu'ils voyaient davantage à ce poste-là. Mais je crois qu'entre Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin, c'est pas.
François Ruffin est quand même très attaché à sa voilà. circonscription. Voilà. Il ne quittera pas. C'est.
D'ailleurs, il était là le soir. Il a refusé de s'exprimer. Ouais. C'est quelqu'un qui pour l'instant est assez effacé d'ailleurs.
François
dans
Ruffin
campagne.
A du mal à s'exprimer sur un certain nombre de sujets dont on parlera peut-être dans la semaine qu'a connu le parti. C'est vrai qu'on sent qu'il est toujours là, mais avec une forme de distance à certains moments.
Alors, et pendant ce temps-là, j'ai envie de vous dire, sous le soleil varois, dans la quatrième circonscription du Var, cette fois, Éric Zemmour a annoncé sa candidature, en revanche, et son déménagement dans la région pour faire campagne. Alors, du côté de Saint-Tropez, pas si mal. Il a profité d'un déplacement sur un marché ce matin pour en remettre une couche sur la gauche islamo-gauchiste. Écoutez.
Je pense que la présidentielle a accouché derrière Jean-Luc Mélenchon de ce peuple islamo-gauchiste que j'annonce depuis des années. Désormais, il n'y a plus de deux gauches irréconciliables, il n'y a une seule gauche, qui est la gauche islamo-gauchiste, qui a aspiré toute la gauche. Et je pense que le seul adversaire de cette gauche islamo-gauchiste, c'est moi. La politique migratoire d'Emmanuel Macron prépare la France de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils sont alliés, il n'est pas l'opposant à Emmanuel Macron.
Voilà, il est dans sa posture, hein, évidemment, de poil à gratter, Jacques Serret. Alors, il n'a pas les mêmes ambitions, évidemment, hein, que NUP en termes de circonscription, deux ou trois. Il n'est même pas sûr du tout d'être élu hein, du côté de Saint-Tropez. Là.
Je pense qu'il tente le tout pour le tout, finalement. C'est-à-dire qu'il ne sait pas quelle carte jouer, mais au final, c'est peut-être la seule à sortir là, maintenant. Parce que clairement, il n'est pas du tout assuré qu'il parvienne à gagner dans cette circonscription. Donc, il tente le coup, mais c'est une manière de continuer de surfer sur sa campagne où il a réussi à avoir ses 7% pour une première candidature. C'est un peu, voilà, il n'y a pas de vision sur le long terme. En attendant, il va essayer de passer cette étape-là, mais ça paraît plus que compromis.
Frédéric Dabi.
Oui, je suis assez étonné par cette déclaration. C'est une déclaration d'un candidat à la présidentielle. C'est une déclaration, oui. En revanche, qui méconnaît la réalité sociologique électorale de cette quatrième circonscription, où son adversaire ne sera absolument pas la gauche, qui sera sans doute très faible, mais le Rassemblement national. Oui. Le maire de Cogolin, qui est Philippe Lothiaux, je crois, si je ne me trompe pas, je vérifierai tout à l'heure, qui est très bien implanté. Marine Le Pen, qui a fait beaucoup mieux que lui à la présidentielle.
Oui, c'est pour ça, c'est étonnant, cette posture de taper sur la gauche.
Il a, à la limite, comme adversaire, la députée LREM sortante, et surtout le RN. Les élections législatives sont une élection nationale, mais il y a une très forte dimension locale. Je ne parle pas du parachutage, qui est particulièrement gênant pour lui, mais c'est avant tout un rapport de force qui fait qu'il doit trouver des éléments de distinction, moins par rapport avec ce peuple islamo-gauchiste, si je puis dire, que avec les électeurs tentés par le vote Rassemblement national.
Alors, si on se place un peu au-dessus de la mêlée, Stéphane, Zemmour, compliqué de décrocher effectivement ce job de député dans le Var. Mélenchon, on le sait, c'est fini, il ne sera pas non plus député. Un chef de parti qui n'a plus de mandat, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui?
C'est
une première quand même.
Oui, mais ça peut fonctionner.
Je pense que ça peut fonctionner.
Je pense que ça peut fonctionner dans le cas de Mélenchon. On parlait encore tout à l'heure de cette autorité idéologique, bon, indéniable qu'il a sur son parti et le coup de force qu'il a réussi. Pour Zemmour, là, on est quand même dans une séquence qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. On se rappelle tous de ce début de campagne tonitruant, qui est effectivement des démarrages en force. Depuis le premier tour de l'élection présidentielle, on voit quelqu'un qui est dans un flottement, ou qui coule hein, par moments.
Il s'est retiré un peu de la campagne pour préparer l'écriture d'un livre, il est revenu.
Voilà, on ne sait pas très bien comment il se positionne. Il insulte quasiment ceux qui voudraient être ses partenaires avec le Front National et la famille Le Pen, le Rassemblement, pardon, et la famille Le Pen. Il tend maladroitement la main, directement ou indirectement, avec certains de ses alliés. Et c'est une fin de non-recevoir. Il est un peu perdu. Et là, effectivement, aujourd'hui, il n'a aucune certitude, alors qu'il y avait une force politique qu'il pensait voir naître, aucune certitude d'avoir un député.
Oui. Peut-être
que les électeurs de Marine Le Pen qui sont sur place auront envie de soutenir cette cette figure connue au niveau national pour représenter leur circonscription. C'est quelque chose qu'il ne faut pas écarter non plus. Ça peut être aussi une surprise. Donc, ça peut être aussi la carte que veut jouer Éric Zemmour. C'est-à-dire que ça ne paraît pas du tout jouer d'avance, bien au contraire. Mais il peut y avoir une surprise. Et au final, c'est ce pari qui fait là.
Frédéric Dabi.
Oui, c'est vrai qu'il est face à quelqu'un du RN très implanté, Philippe Lothiaux. C'est pas lui le maire de Cogolin. Le maire de Cogolin, c'est quelqu'un de Reconquête qui aurait pu être candidat, mais il a laissé la place à Éric Zemmour. Il peut créer la surprise, il peut aussi enclencher un TSZ, c'est-à-dire un tout sauf Zemmour dans le cadre de cette campagne pour les élections législatives. Je pense qu'il joue gros et comme vous le dites, Stéphane, il y a un problème sur le statut d'Éric Zemmour et le statut de son parti. Son statut, il avait coupé, si je puis dire, le fil du polémiste pour devenir un vrai homme politique. Ouais. On parle d'un livre, il redevient plus observateur. Ce parti, qui est plutôt un parti, je dirais, assez impressionnant pour un parti si jeune, une centaine de milliers de militants.
Et ça reste un embryon de parti quand même.
Oui, mais il y a déjà beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde du côté de Reconquête au niveau de la jeunesse. Mais un parti, pourquoi faire? N'oublions pas que nous entrons à partir du 19 juin, Céline, dans un désert électoral, sauf référendum, par définition, pas connu aujourd'hui, pas d'élection en 2023, les élections européennes en 2024 qui sont des élections très peu participatives, pas d'élection en 2025, il y a bien sûr les sénatoriales pour lesquelles les Français ne votent pas, ça sera difficile de faire vivre et de faire prospérer un parti dans un moment où il n'y aura pas de confrontation avec les Français devant les urnes.
Oui, ce sera le cas aussi pour NUP et effectivement
pour un parti si jeune, c'est peut-être gênant. Bon.
Allez, on reste ensemble, évidemment, l'aventure continue et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Céline Géraud.
Allez, on est de retour dans le studio avec ce soir Jacques Serret, journaliste au service politique d'Europe 1, Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut de sondage IFOP, et Stéphane Albouy, le nouveau directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. Alors, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron s'achève officiellement ce vendredi. Jean Castex a fêté son départ de Matignon hier soir, entouré de ses ministres, avant un dernier déplacement en tant que Premier ministre ce dimanche au Vatican pour la canonisation du prêtre français Charles de Foucault. Alors pour la petite histoire, le Premier ministre s'est vu offrir un maillot de rugby dédicacé, celui du numéro 9 du 15 de France, Antoine Dupont. Alors avant de se projeter sur l'après Castex, ces cadeaux ce soir, je vous propose d'écouter un petit medley des déclarations qui ont marqué son mandat, du très léger au plus sérieux, et ça commence dans un train.
Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Je vous souhaite la bienvenue à bord du train Intercité de nuit à destination de Nice Ville. Exceptionnellement, ce n'est pas votre chef de bord qui vous parle, mais le Premier ministre.
À compter de la rentrée, et pour une durée de 3 semaines, le recours au télétravail sera rendu obligatoire, je dis bien obligatoire, dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lesquels il est possible, à raison de 3 jours minimum par semaine et, si possible, 4 jours quand cela est possible.
Je vous le dis, ce n'est pas responsable. Le virus galope.
Où sont mes lunettes? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Cette vidéo culte qui date de décembre 2020 a fait le tour du monde. Ah, c'est vrai qu'il était faillible, il était humain. C'était un bonhomme chaleureux, Jacques Serret. Alors, quelles sont les dernières informations dont on dispose au moment où on se parle concernant l'agenda, le planning, dimanche soir, lundi?
Oui, c'est ça, il ne faut pas s'attendre à d'annonces durant le week-end. Jean Castex va partir dimanche au Vatican pour assister, vous le disiez, à la canonisation de Charles de Foucault. Il va même rencontrer le pape, il va avoir un instant avec le souverain pontife. Donc, rien d'ici dimanche. Après, une fois qu'il sera de retour à Paris, on n'est pas à l'abri de recevoir un communiqué de l'Élysée annonçant la démission de Jean Castex, ou peut-être que ça viendra directement de l'Élysée, avec une prise de parole du secrétaire général Alexis Kohler. Donc, à voir en tout cas, on peut passer le week-end tranquille, entre guillemets. Ensuite, dimanche soir, lundi matin, tout peut se passer à n'importe quel moment, et d'autant plus que dès que la démission de Jean Castex sera annoncée, c'est tout le gouvernement qui tombe. Et après, en tout cas, Emmanuel Macron a dit que dans la foulée, un nouveau Premier ministre, ou une nouvelle Première ministre, sera nommée peu de temps après la démission du Premier ministre.
Frédéric Dabi, IFOP.
En tout cas, puisque le quinquennat est en train de se terminer, Emmanuel Macron a eu 2 Premiers ministres, et là, leur point commun, c'est que tous les deux vont quitter l'hôtel Matignon dans un état de popularité assez incroyable quand, on parle, quand on parle de l'enfer de Matignon, la lessiveuse de Matignon. Édouard Philippe est parti en juillet 2020, début 2020.
En nabab.
Exactement, j'allais dire en état de grâce, mais je prends votre terme de nabab. Jean Castex, complètement inconnu des Français lorsqu'il est arrivé à l'hôtel Matignon, qui a su les séduire par le côté, voilà, la proximité identificatoire, quelqu'un qui nous ressemble, son accent. Il y a eu un moment, une difficulté. Est-ce que c'est un élu local ou est-ce qu'il n'est pas trop techno? Mais la crise du Covid, qui pour les Français a été plutôt bien gérée, l'a très fortement légitimé et de la même manière, un peu moins populaire qu'Édouard Philippe, mais il quitte l'hôtel Matignon, si je me réfère à la dernière enquête IFOP JDD du mois d'avril, avec quasiment un Français satisfait sur deux, 44 ou 45%, c'est quand même une performance compte tenu de ce quinquennat de crise, crise sanitaire, crise économique, crise sociale avec les gilets jaunes, crise internationale. C'est quelqu'un qui n'aura pas démérité et que peut-être les Français regretteront au début.
Oui, parce que le profil du prochain...
Jean Castex a été jugé au regard du formidable Édouard Philippe. Peut-être que le prochain ou la prochaine
qui sera plus connaîtra un technocrate,
aussi cet effet de miroir. Voilà.
Et, oui, Stéphane Albouy. Et il sera d'autant plus... regretter qu'au dernier moment, il semble avoir eu quelques hésitations. En tout cas, autour de lui, on s'est dit que c'était un tellement bon Premier ministre sur la fin.
Même Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il aurait bien aimé le garder.
Et peut-être que certains auraient aimé prolonger un petit peu, le garder un peu plus. Je crois sincèrement que, même si effectivement, il n'a peut-être pas vécu l'enfer de Matignon, je crois que ça reste une essoreuse.
C'est dur.
Et je pense qu'il est assez content, et il le dit, il le fait rempiler, dire, ouais. Il ne souhaite pas rempiler et il est soulagé. Après, on a eu quand même deux premiers ministres, effectivement, qui sortaient très populaires, mais dans des profils totalement différents. Et avec l'incarnation du concept de collaborateur mis à la mode par Nicolas Sarkozy avec Castex, d'une certaine manière. Et un autre premier ministre, Édouard Philippe, qui, lui, s'est très largement émancipé, ne cesse de s'émanciper et sera sans doute ce qui est peut-être, ou en tout cas ce que certains redoutaient chez En Marche, un peu le cauchemar de certains présidents. C'est-à-dire que le Premier ministre qui, gravissant les marches de Matignon, commence à penser à d'autres marches.
Oui, c'est ça. Ouais. Oui,
non, mais c'est vrai qu'il y a deux types de Premier ministres. Pendant très longtemps, c'était des Premier ministres protecteurs, on disait souvent fusibles. Le dernier en date, c'était Jean-Pierre Raffarin qui avait fortement protégé Jacques Chirac d'impopularité. Et puis, il y a eu des premiers ministres qui n'étaient pas fusibles. C'était même le président qui était leur paratonnerre. Manuel Valls et François Hollande. Édouard Philippe, qui a fini plus populaire qu'Emmanuel Macron. Et je crois que ça a pas mal agacé à l'Élysée. C'est le moins que l'on puisse dire. À l'inverse, Jean Castex a pleinement joué son rôle. Et d'ailleurs, dans les enquêtes qualitatives que l'IFOP mène à partir des questions ouvertes du baromètre IFOP JDD, quand les Français s'expriment spontanément sur pourquoi sont-ils satisfaits de Jean Castex ou d'Emmanuel Macron, la question de la loyauté d'un Premier ministre qui aura été fidèle, loyal, aura été centrale dans sa popularité.
En attendant, il y a trois jours, Emmanuel Macron était à Berlin et lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier Olaf Scholz, écoutez ce qu'il répond à la journaliste qui lui pose la question. Avez-vous choisi votre Premier ministre?
Alors, oui, mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. On a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses en bon ordre.
Alors, c'est Olaf Scholz, bien sûr, et c'est Papa Schulz. Autant pour moi, je m'enflamme. Alors, on ne va pas papoter, pas facile, sur celui ou celle qui occupera ce poste. Elisabeth Borne, Jacques, rapidement semble tenir la corde actuellement, au moment où on se parle, mais tout ça est fragile.
Oui, elle fait partie des non-cités. C'est celle qui semble être la favorite pour le poste. Mais ensuite, on sait bien souvent que ça ne veut pas forcément
ça peut encore changer.
En tout cas, avec Emmanuel Macron. Une seule petite remarque. En 2017, il y a plusieurs noms, voire une dizaine de noms qui ont été cités. Le seul qui n'a jamais été cité, c'était Édouard Philippe. Donc, on doit rester, à mon avis, extrêmement prudent. Ça sera sans doute une femme. Et c'est le souhait des Français. Une enquête IFOP JDD montrait que deux tiers des Français veulent qu'une femme, 31 ans après Edith Cresson, accède rue de Varennes.
Frédéric Dabi, noté greffier, excellente remarque. Ça ne sera peut-être pas du tout ça. Moi, j'aimerais plutôt vous entendre ce soir sur la fonction de Premier ministre qui n'a cessé d'évoluer ces dernières années. Est-ce qu'on n'assiste pas finalement à un glissement de cette fonction? On en parlait à demi-mot, Frédéric, il y a quelques instants. Est-ce que Emmanuel Macron n'a pas un peu tué le job avec sa posture jupitérienne au fil du temps? Désacralisé un peu, c'est plus un exécutant qu'un Premier ministre à l'ancienne, comme on l'a connu à l'époque des Mitterrand, des Chirac, des Sarkozy.
Oui, mais avant et après, pardon, Mitterrand, Chirac, il y a eu donc Sarkozy. Sarkozy, lui, a contribué. Je pense que c'est le premier qui contribue un petit peu à changer la fonction, ou en tout cas le regard qu'il porte et la considération qu'il porte à cette fonction, bah, brise un petit peu avec ce qui existait précédemment. Et au-delà de la personnalité même des présidents, je pense que ce qui change pas mal de choses, c'est la réforme du quinquennat. Et là, avec le quinquennat, l'élection dans la foulée législative et donc une majorité très installée et donc un Premier ministre qui vient exécuter un certain nombre de choses et qui n'est pas finalement, qui n'est pas le soutien du président ni l'émanation de la majorité à l'Assemblée. C'est ce rôle, moi je pense que c'est plus structurel de ce point de vue-là que l'évolution s'est fait sentir.
Et justement, Jacques Serret, Emmanuel Macron est plutôt favorable au septennat, justement pour désolidariser les agendas et avoir cette parenthèse démocratique que sont les législatives qui ne soient plus alignées sur celles des présidentielles.
Ce système finalement pousse à cette manière de travailler au plus haut sommet de l'État. C'est-à-dire que 5 ans, c'est long et c'est très court en même temps. C'est-à-dire que tout va vite. En effet, maintenant que c'est lié avec les législatives, ce quinquennat, qu'au final, quand il y a la majorité, il n'y a plus tellement de questions à se poser. Et Emmanuel Macron, finalement, a fait que confirmer ce que François Hollande et Nicolas Sarkozy, avant lui, avaient mis en exercice depuis la mise en application du quinquennat, c'est-à-dire un pouvoir vertical ou avec un président omniprésent dans toutes les décisions, où le Premier ministre ne se retrouve qu'à exécuter, finalement, les ordres du président. Mmh.
Oui, je partage ce qui a été dit. C'est vrai que le quinquennat, l'accélération du temps médiatique, c'est vrai que Nicolas Sarkozy, ça a été une rupture, bonne ou mauvaise, c'est pas à moi de le dire, avec le fait qu'il avait dit que François Fillon était son collaborateur. Ça avait été très mal vécu par ce dernier, on s'en souvient. Cette accélération du temps politique a fait que souvent, le président a joué le Premier ministre. On se souvient d'un Nicolas Sarkozy qui, lors des vœux de 2009, du mois de janvier, annonce lui-même toute une série de mesures qui étaient de l'ordre de ses ministres. Maintenant, on a vu quand même les différents Premiers ministres, François Fillon sous Nicolas Sarkozy, Manuel Valls sous François Hollande, et on en parlait tout à l'heure, Céline, Édouard Philippe, s'autonomiser par rapport au président et jouer dans l'opinion publique d'un effet de contraste. N'oublions pas que François Fillon a été populaire pendant tout le mandat de Nicolas Sarkozy, alors même que Nicolas Sarkozy a été très impopulaire parce qu'il bénéficiait d'un effet de contraste, y compris chez des électeurs de gauche. Même chose pour Manuel Valls, et Édouard Philippe a été plus populaire, comme je le disais. Mais c'est vrai que l'accélération du temps, le quinquennat, est-ce que les Français sont favorables au retour au septennat? Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux? C'est une question qui se pose dans un contexte où la réforme des institutions intéresse infiniment peu les Français.
Alors après, peut-être qu'Emmanuel Macron va souhaiter changer de méthode. En tout cas, il a dit qu'il voulait changer de méthode. Alors peut-être que son second quinquennat, ça peut évoluer dans un sens où le Premier ministre a plus de marge de manœuvre.
Oui, de
finalement.
Pouvoir, c'est peut-être, véritablement.
Peut-être au fond ce qu'il souhaite. Et je relisais, je suis retombé sur une interview d'Emmanuel Macron il y a quelques semaines, c'était durant la campagne. Et il avoue lui-même, j'ai peut-être passé trop de temps sur des choses secondaires. C'est-à-dire qu'il admettait déjà...
Qu'il empiétait un peu sur ce que...
Qui gérait trop.
Alors, le travail
après,
du Premier ministre.
Il y a toujours cette tentation. Mais en tout cas, s'il a déjà intégré ce fait-là, qu'il est lui-même favorable au septennat...
Vous pensez sincèrement qu'il peut changer?
Mais en tout cas, la première réponse, on l'aura dans le profil du Premier ministre qui sera annoncé en début de semaine prochaine.
Mm-hmm. Après, Stéphane Emmanuel Macron nous a souvent JDD. Dit qu'il avait changé. Il l'a dit lui-même. Il avait appris. Et finalement, il a sans doute appris, mais pas beaucoup changé. Donc on va voir effectivement la nomination qu'on attend pour ce fin week-end ou début de semaine va être un signal assez important.
Et sur sa posture justement de d'attente, de faire un petit peu durer le suspense. En théorie, en fait, le Premier ministre peut aussi expédier les affaires courantes jusqu'aux législatives.
Bien sûr.
Tout est possible, c'est l'usage. Il a toujours été respecté depuis 1958.
Moi, si je puis dire, au regard de ce que nous disent les Français dans nos enquêtes, l'impatience médiatique est d'un certain microcosme et infiniment supérieure à l'impatience des Français qui sont plutôt polarisés sur la question notamment du pouvoir d'achat, de l'inflation qui écrase tout et structure tout. Mais c'est vrai, comme ça a été dit, que ces nouveaux gouvernements, ça va être un acte important de la campagne des élections législatives. Quel profil choisi? Quelle dénomination des ministères? Est-ce qu'il y aura des regroupements de ministères qui montreront? Il avait annoncé, Emmanuel Macron, qu'il y aurait 2 vice-premiers ministres sur la question
écologique. En 5 ans, il a nommé 70 ministres.
Voilà,
c'est énorme.
Et vous avez raison. Et puis, quel équilibre au sein des forces de la majorité? 2017, c'était un gouvernement qui n'était absolument pas politique. C'était la société civile avec la réponse à l'imaginaire
des Français.
Ça n'a duré
qu'un temps.
Sportif au sport, mettons un DRH à l'emploi et mettons un médecin au ministère de la Santé. On ne sera pas du tout sur cette logique-là la semaine prochaine, s'il y a grand maniement la semaine prochaine.
Stéphane Albouy.
Je partage, et Frédéric m'a devancé, c'est exactement ce que j'allais dire, et notamment sur notre impatience médiatique et journalistique, qui, à mon sens, ne dévore moins les Français. Je pense que les discussions sont souvent portées sur effectivement des questions comme le pouvoir d'achat. Et puis Emmanuel Macron s'est fait une spécialité hein, depuis 5 ans maintenant, on le sait, de nous faire attendre. Et il n'y a pas de raison qu'il change sur.
Mais il nous fait déjà attendre.
mais cette stratégie finalement. Où la tambouille électorale, pardon, je reprends ce terme de Jean-Luc Mélenchon, occupe le terrain, écrase tout le reste. On ne parle pas du fond. Ah si, il y a eu cette petite annonce, Jacques Serret, ce matin sur la taxe audiovisuelle, la redevance audiovisuelle, pardon.
C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron.
Qui est sortie ce matin un petit peu pour nourrir le débat en disant, voilà, on travaille quand même, même si on est beaucoup préoccupé par les candidatures à la députation et au gouvernement. Voilà.
C'est pour montrer tout simplement qu'il y a une continuité malgré cette période de flou, de transition, que les promesses de campagne d'Emmanuel Macron sont en train de se mettre en œuvre. En tout cas, voilà, c'est au Conseil des ministres, souvent Gabriel Attal insiste sur le fait que les ministres sont toujours au travail, toujours à la tâche. Alors ça fait 3 semaines qu'il le répète, parce que ça fait 3 semaines que les journalistes posent des questions sur le remaniement à venir. Donc oui, les dossiers avancent. Il y a un projet de loi concernant le pouvoir d'achat qui est en préparation, qui sera présenté.
Il sera présenté bientôt.
En Conseil des ministres prochainement, pour ensuite passer à l'Assemblée juste après les législatives. Donc il y a une continuité quand même de l'État dans cette période un peu de transition. Au final, ça reste une transition avec le même président.
Allez, on reste ensemble évidemment. Vous ne bougez pas dans quelques instants. Tiens, on va parler d'un personnage crucial, essentiel. C'est Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Il n'a jamais eu autant de pouvoir. C'est le papier de Paris Match, l'enquête. Même. On en parle dans quelques instants.
La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Céline Géraud.
Allez, restez avec nous, on est bien, on est dans le studio avec Jacques Serret du service politique d'Europe 1, Frédéric Dabi, directeur de l'Institut IFOP, et Stéphane Albouy, directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. Alors à la une de Paris Match cette semaine, Joe Biden, le président des États-Unis qui monte au front pour soutenir l'Ukraine, et page 51, il y a cette enquête de Sophie Desdeserts sur le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, le bras droit du chef de l'État, la sentinelle invisible, extrêmement influente. Et c'est l'un des rares collaborateurs, Jacques Serret, qu'Emmanuel Macron est embrassé lors de la cérémonie d'investiture le 7 mai dernier. Beaucoup souhaitent son départ, mais il devrait rester.
Oui, absolument. D'ailleurs, c'est cette grande photo dans Paris Match où on voit le chef de l'État embrasser Alexis Kohler, lui faire la bise. C'est son bras droit, c'est l'homme de l'ombre, c'est le fidèle parmi les fidèles. Il était avec Emmanuel Macron à Bercy déjà auparavant, il est arrivé à l'Élysée avec lui. Emmanuel Macron, ce qu'on peut lire dans cet article, l'appelle son Alexis. Et dans cette période, par exemple, où tout le monde attend de connaître le nom du futur Premier ministre, il y a certainement que 3-4 personnes tout au plus au courant aujourd'hui, à savoir l'identité, déjà le ou la première concernée, Emmanuel Macron, Alexis Kohler, Brigitte Macron et Jean Castex, mais ouais, ça ne va pas au-delà.
C'est le plus mormon des mormons, pour reprendre l'expression justement de cette enquête.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faisait partie de cette toute petite équipe au départ qui a cru en Emmanuel Macron alors qu'il était jeune ministre de l'économie, où beaucoup parlaient de cette bulle Macron qui allait éclater durant la campagne de 2016-2017. Il y a cru, c'est vraiment le fidèle parmi les fidèles, et beaucoup sont partis dans cette petite équipe. Sibeth Ndiaye, Ismaël Emelien, mais lui est resté, il est toujours là, et il pourrait bien encore rester pour le prochain quinquennat.
Stéphane Albouy du JDD, c'est lui qui a organisé la campagne jusqu'au premier tour. Une stratégie avec ses fameuses apparitions un peu mini-palistes, c'est lui. Il a su se rendre indispensable ?
Oui, il est indispensable et je crois qu'il y a un autre adjectif, c'est qu'il est résistant. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'enfer de Matignon, l'enfer du sillage d'Emmanuel Macron, c'est quelque chose, on le sait, il faut suivre le rythme. Et dans le départ de son premier cercle, de tous les collaborateurs qu'il avait au début, ces fameux mormons, beaucoup sont sortis essorés hein, quand même de cette séquence. Pourtant, pour la plupart des gens entraînés au travail et à un bon rythme. Et Alexis Kohler a aussi cette capacité vraiment à suivre le rythme et parfois même à relancer en étant juste à côté d'Emmanuel Macron. C'est cette proximité aussi qui suscite beaucoup de jalousie, on en a parlé déjà.
Oui, parce qu'il est le seul, finalement, Jacques, vous l'avez dit, à avoir tenu 5 ans. On le surnomme le vice-président, la vigie, le Waze du président.
Mais la vigie, c'est ce nom. C'est-à-dire que Sophie Desdésert le raconte très bien dans cet article. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille tout le temps, ou presque. Ce sont des journées de 18 heures par jour. Il est le soir, il ne rentre pas chez lui avant 2 heures du matin. Donc,
il a une famille qui habite à Strasbourg, je crois. Enfin, voilà, il est
originaire de Strasbourg. Il a des enfants à Strasbourg. Mais c'est quelqu'un, voilà, c'est un boulot énorme, autant, voire plus que le président en termes de charges, de rythme de travail, de rendez-vous accumulés à l'Élysée. C'est un travail épuisant.
Il sacrifie tout, y compris ses enfants qu'il n'a pas vu grandir, semble-t-il.
Oui, ce que je trouve intéressant, je n'ai pas lu cette enquête, mais je l'ai parcourue rapidement. On parle de quelqu'un qui est le cerveau droit du président, la vigie des vigies, le président bis, et les Français ne le connaissent pas. Il ne s'est quasiment, je parle sous votre contrôle, jamais exprimé dans les médias. Ils l'ont vu annoncer. Voilà. La nomination d'Edouard Philippe, de Jean Castex. Et est-ce que ça pose un problème démocratique? Je ne le dirais pas comme ça. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. On a connu des secrétaires généraux de l'Élysée, très proches du président de la République, mais qui après se sont engagés, ont été plus visibles, sont devenus ministres. Claude Guéant, Jean-Louis Bianco, sont restés dans l'ombre et sont partis. François-René Lemas ou François Hollande, si je ne me trompe pas. Là, on voit qu'il est nommé pour le deuxième mandat. Pour le second mandat du président de la République, est-ce que il va rester dans cette posture de
sentinelle
secret,
invisible, ouais.
De sentinelle invisible, ou est-ce que, parce que le quinquennat va avancer différemment, il va être plus visible et il va devenir un nom et un visage familier pour les Français, comme l'avait été Claude Guéant très vite lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy.
Stéphane Albouy, JDD.
Oui, à plusieurs moments, il a été question quand même d'un ministère. On a beaucoup parlé de Bercy. Il en vient. Ouais. Il y travaillait déjà avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'il le souhaite? Est-ce qu'il ne le souhaite pas? Ça, il faut être dans la tête d'Alexis Kohler. Ça peut arriver. Mais aujourd'hui, là où il est, beaucoup disent qu'il a plus de pouvoir que la plupart, voire tous les ministres, et que dans certains arbitrages, y compris financiers, y compris lorsqu'il s'agit de Bercy, il peut emporter le morceau sur certaines décisions.
C'est lui, me semble-t-il, Jacques Soré, qui est allé voir Nicolas Sarkozy pour ouvrir la brèche, la discussion. Il s'est occupé de ça aussi.
Oui, notamment. C'est-à-dire que toutes ces discussions un peu sensibles, que ce soit avec d'anciens présidents, mais aussi des grands responsables d'entreprises du CAC 40, c'est lui qui les rencontre. Quand Emmanuel Macron ne peut pas, ou quand il faut annoncer pas forcément des bonnes nouvelles, entre guillemets, c'est aussi lui qui fait le sale boulot à la place d'Emmanuel Macron parfois. Et il y a un surnom et qui est noté dans cette enquête de Sophie Desdésert, c'est-à-dire que le surnom d'Alexis Kohler par certains dans la Macronie, c'est AK-47 comme la Kalachnikov.
Ah oui.
Donc voilà.
C'est violent.
C'est un bourreau de travail efficace qui peut parfois paraître sec. En tout cas, lui essaie de s'enlever cette image pas forcément agréable, mais oui, clairement, il a plus de poids que bon nombre de ministres. Et c'est...
Il agace aussi, il ne fait pas l'unanimité, notamment Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Alain Minc souhaitent son départ. Il le considère comme la quintessence de la technocratie.
Ça crée évidemment des jalousies dans le microcosme. Quelqu'un qui a autant de pouvoir aux côtés du président, qui est à côté du président à longueur de journée à l'Élysée, évidemment qu'il y a des rancœurs par certains, d'autres qui ont aussi des ambitions.
Y compris pendant les entrevues avec les premiers ministres ou forcément...
Je crois qu'Edouard Philippe déclare avoir dit que d'avoir eu que 3-4 entretiens en face-à-face réel avec Emmanuel Macron, Alexis Kohler est toujours là.
Oui, parce que c'est lui qui avait vendu, entre guillemets, le profil d'Edouard Philippe à Emmanuel Macron. C'était un ancien copain.
C'est vrai que c'est quelque
Po.
Chose d'assez inédit sous la Ve République. Maintenant, c'est vrai, le fait qu'il ait engagé un dialogue, une forme de négociation avec Nicolas Sarkozy donne peut-être des pistes sur un rôle différent lors du second mandat, c'est-à-dire plus politique, pas seulement le super techno, celui qui tranche les questions, qui fait le sale boulot à la place du président. On pourrait avoir des surprises. Est-ce qu'il fera tout le mandat comme le premier? Parce que c'est aussi une autre question qui se pose. Pour l'instant, on est sur une incertitude.
Stéphane Albouy, JDD.
Dans le poids politique, justement, ou dans celui qu'on lui prête de plus en plus, à la recherche aujourd'hui du ou de la Premier ministre, il y a des noms qui sortent, et dans les noms qui sortent, comme par hasard, vous avez Audrey Azoulay, vous avez Agnès Pannier-Runacher, qui sont des gens qui étaient dans la même promo de l'ENA qu'Alexis Kohler. Parfois même une proximité, même ancienne, avec Alexis Kohler peut laisser penser à certains que ça peut faciliter l'accès à certaines fonctions. Voilà.
Et notamment, il y a eu Véronique Bédaille, qui est l'actuelle directrice générale de Next City Immobilier, qui a été consultée pour devenir Premier ministre. Ce n'est pas avec Emmanuel Macron qu'elle a rendez-vous, c'est avec Alexis Kohler dans son bureau à l'Élysée. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, elle a refusé le poste, mais c'est dire au final le poids qu'a Alexis Kohler aujourd'hui à l'Élysée.
Et c'est un personnage qui évolue au fil du temps, hein, Stéphane Albouy. Il est plus politique, on l'a dit, il est allé rencontrer Nicolas Sarkozy, hein, pour lequel il avait pourtant refusé de travailler par le passé. Voilà, il fait des concessions, voilà, il s'arrondit, il est dans le cercle très fermé, hein, effectivement, proche de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron. Mais il est indispensable, rigoureux, bosseur, il range la maison, c'est ça, c'est lui qui le dit. Il y a 900 salariés à l'Élysée, c'est lui qui s'en occupe. Enfin, il est partout.
Alors, vous avez employé le terme, il s'arrondit, je ne sais pas. À titre, je ne le connais pas personnellement, je ne sais pas s'il s'arrondit. Je ne sais pas si on ira jusque-là. Ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est la cheville ouvrière, c'est un rouage indispensable. Est-ce qu'il va durer encore 5 ans? Parce qu'il y a la question, tout à l'heure, je disais qu'il était très résistant. Est-ce qu'on tient 10 ans à ce poste? Je ne sais pas.
C'est épuisant.
Ce serait une première. Déjà là, en l'état, c'est une très belle performance de sa part. Après, on lui a reproché, dans les reproches et les petites jalousies qu'on a entendues, il lui a été reproché plusieurs fois dans cet aspect techno qu'il a, d'être un petit peu en déconnexion avec les Français. C'est peut-être, ça a été identifié peut-être comme un de ses points faibles à certains moments et comme des sujets de discussion parfois un peu houleux avec le président lui-même. D'ailleurs, c'est rappelé dans le
notamment
sujet.
Notamment sur la crise des Gilets jaunes,
absolument,
c'est ça ?
Absolument, absolument. Et ça a été peut-être un des petits moments où il y a eu un peu de friction parce qu'ils se disent les choses très franchement avec Emmanuel Macron. Et c'est sans doute un des points qui a un petit peu par moment posé problème.
Oui, et ce que dit Stéphane a d'autant plus d'importance, c'est que ce qui a été le point faible, pour ne pas dire le boulet du président Macron pendant son premier mandat, ça a été le sentiment qu'il était déconnecté des préoccupations des Français, qu'il connaissait mal le pays, beaucoup plus que le soupçon de mépris ou d'arrogance. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque où Édouard Philippe était à l'hôtel Matignon, il y avait une vraie proximité, un vrai point de vue entre le directeur de cabinet d'Édouard Philippe, Benoît Ribadeau-Dumas, qui lui aussi... quelqu'un de très efficace, qui travaille jour et nuit, qui a été vraiment d'une aide extraordinaire pour Édouard Philippe, mais à qui on prêtait aussi un côté techno, ne connaissant pas la réalité du pays. Et n'oublions pas, les gilets jaunes, c'est la taxe sur les carburants, et c'est aussi les 80 à l'heure imposées par Édouard Philippe et sans doute soutenues par Alexis Kohler et Benoît Ribadeau-Dumas.
Et ce que vous dites là, c'est ressenti vraiment sur le terrain. Jacques Serret, vous l'avez suivi, évidemment, le président tout au long de sa campagne. Elle a été très courte. Et quand il est retourné sur le terrain, au contact des Français, ça a parfois été violent.
Oui, parce que après la problématique du pouvoir d'achat durant la campagne, voilà, imprégné tous les débats. Donc, en effet, cette question de déconnexion, oui, c'était là. Et en même temps, certes, Alexis Kohler peut paraître, aux yeux de certains, déconnecté. Mais en même temps, c'est ce qui est aussi précisé dans cet article, quand on passe 18 heures à l'Élysée enfermé dans son bureau, on peut, entre guillemets, pas tout faire et prendre le pouls du pays en même temps. Donc c'est un peu aussi à mettre au crédit d'Alexis Kohler. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va rester, partir? Parce que ça va être aussi un vrai chamboulement pour le chef de l'État s'il y a départ d'Alexis Kohler dans la manière de gérer l'État. À qui il peut confier les manettes? Ça veut dire redonner sa confiance, mais à quelqu'un d'autre de son entourage? Alors, il y a quelques noms qui circulent pour le secrétariat général.
Qui par exemple
l'Élysée, par exemple des gens comme Julien Normandie, qui aussi fait partie des très
aussi,
proches.
Qui est un mormon qui est resté. Lui.
Qui fait partie de ces rares mormons qui
sont surnommés le jumeau, carrément.
Voilà. Ah oui, carrément. Ouais.
Donc, dans le cas où Alexis Kohler partirait pour un ministère, après, le plus probable dans cette séquence, et ce qui semble se dessiner, c'est que Alexis Kohler reste à son poste, en tout cas pour le moment.
Pour le tuilage, toujours est-il
voilà,
peut-être
au final,
un peu
pour
plus.
Cette transition, éventuellement, s'il ne fait pas le quinquennat, s'il ne s'engage pas dans le quinquennat, c'est au moins rester là, dans cette période, avant l'été, avant la prochaine rentrée, permettre de faire cette transition des législatives, l'avant, l'après, installer un peu le lancement du second
projet.
Quinquennat Macron, pour ensuite, éventuellement, faire une transition et lâcher la main.
Frédéric Dabi.
Oui, c'est vrai que c'est un scénario possible. On l'a dit plusieurs fois, mais Macron aime déjouer les scénarios déjà écrits. C'est vrai que son départ du secrétaire général serait peut-être pas un coup de tonnerre dans l'opinion, loin de là.
Mais ce serait un signal.
Un léger coup de tonnerre médiatique, mais dans l'écosystème de la Macronie, oui, ce serait un véritable coup de tonnerre et le symbole très fort que le deuxième mandat, ce second quinquennat, n'aura rien à voir avec le premier. N'oublions pas à quel point, pour le François Mitterrand de 88, le Jacques Chirac de 2002, le deuxième mandat a été très compliqué.
En tout cas, ils sont liés véritablement, hein, ces deux hommes, on l'a dit. Je lis un extrait, hein, de cette enquête de Sophie Desdéserts qui est assez édifiant. Colère n'ignore rien des jeux de cour et des fantasmes qu'il suscite. Macron s'en amuse, toujours ravi de déclencher des jalousies, de découvrir des SMS enflammés contre ce type, entre guillemets, qui contrôle tout et préempte l'entourage des nazes qui ne te font pas d'ombre. Il laisse dire et courir des rumeurs, y compris celle d'une nomination de son secrétaire général à Bercy. Lui sait où il veut, son Alexis et ce qu'il lui doit. Voilà. Mmh. En gros, voilà, on sent que vraiment... C'est pour ça que son départ serait pour le coup assez dur à encaisser pour Emmanuel Macron, parce que c'est pas son jumeau, mais voilà.
Non, alors c'est peut-être son imprimé en négatif, et c'est ce qui explique aussi peut-être une forme de complémentarité. Alors, le point commun, ça, on l'a dit, c'est cette capacité de travail, de mobilisation intellectuelle 24/24 quasiment. Mais autant Emmanuel Macron est quelqu'un qui joue du contact avec les autres, qui aime quand même, parce qu'on parle de sa déconnexion, mais c'est quelqu'un qui aime aller au contact des Français, qui sait très bien le faire. Le grand débat l'a parfaitement illustré. D'ailleurs, c'est assez amusant, mais Alexis Kohler ne croyait pas au grand débat. Pour lui, c'était un peu du temps perdu. Et dans un nouveau mandat et dans un nouveau quinquennat où Emmanuel Macron met en avant la consultation, si Alexis Kohler reste là, et ça a l'air d'être le cas, il va falloir qu'il s'adapte aussi à ça, parce que visiblement, il veut beaucoup plus consulter. En tout cas, c'est ce qu'il a promis.
C'est ce que je disais quand il doit s'arrondir, c'est-à-dire qu'il doit se modifier génétiquement, un peu presque, parce que pour lui, c'est des codes qu'il ne connaît pas.
Si le président change, il va devoir changer.
Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment la tendance, quoi. C'est-à-dire, s'il décide de rester, il va falloir qu'il se change, lui, pour s'adapter aux nouveaux codes.
Oui, je pense qu'il n'aura aucun mal à ça. En tout cas, il a su s'adapter à Emmanuel Macron. Certes, il se connaissait, mais il est rentré dans cette fonction de secrétaire général. Et en tout cas, il aura marqué ce poste de secrétaire général, même quand on regarde en arrière, tout ce qui... On ne peut pas dire qu'il n'a pas été à la hauteur du poste, en tout cas.
Et avec Emmanuel Macron, ils ont en commun la nécessité de théoriser la pulvérisation des chapelles. Là aussi, c'est expliqué dans cette enquête. On pense à la réforme de l'ENA, par exemple, ou la suppression des corps préfectoraux et diplomatiques.
Oui, alors c'est des décisions qui ont été vues plus comme des symboles que comme des mesures qui avaient un impact concret sur la vie des Français. Ça n'a pas beaucoup imprimé. Il y a eu aussi, entre les deux tours, tout simplement, la suppression du corps diplomatique. Hein. Ça a été quelque chose qui a créé un très fort émoi, mais pas dans l'opinion publique. C'est vrai qu'ils ont... Il fonctionne en circuit tellement fermé que, oui, tout corps intermédiaire, au sens large, peut être vu comme quelque chose d'hostile, quelque chose avec lequel il ne faut pas traiter. Il ne faut pas oublier que ce qui a fait mal au premier fait quinquennat, ce qui a été dit par aussi bien des opposants à Emmanuel Macron que des proches, c'est cette mise à distance des corps intermédiaires. Là aussi, ça sera intéressant de voir comment les choses se passeront avec les maires, avec toute une série d'institutions et d'associations pendant ce deuxième mandat.
Et vous retrouvez évidemment l'intégralité de cette enquête dans le Paris Match de cette semaine, en kiosque, dans tous les bons kiosques, et c'est à la page 51. Merci beaucoup à vous quatre. C'était un plaisir de vous avoir ce soir, juste après le journal d'Hélène Zélani. Je recevrai Chloé Morin, politologue, et le député Les Républicains Julien Aubert. Et la semaine prochaine, vous retrouvez Pierre de Villeneuve, bien sûr.
Plaisir.
À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Céline Géraud.
Allez, on est ensemble jusqu'à 20h. Deux invités pour revenir sur cette semaine encore bien agitée sur le plan politique. Julien Aubert, le député LR du Vaucluse qui brigue un nouveau mandat et qui se verrait bien à la tête du parti, sera avec nous d'ici 20 minutes. En attendant, je salue ma première invitée, Chloé Morin. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, politologue, experte associée à la Fondation Jean Jaurès. Vous avez été conseillère du Premier ministre lors du quinquennat de François Hollande et auteur de « On a les politiques qu'on mérite » aux éditions Fayard. Qu'est-ce que la tambouille électorale, pour reprendre l'expression de Jean-Luc Mélenchon, qui agite notre pays depuis nos nombreuses semaines, vous inspire à vous? Est-ce qu'on n'est pas en train finalement de perdre un peu le sens même du débat, de la réflexion, au profit de tous ces rebondissements, ces alliances, ces complots qui occupent la scène politique depuis le début de la campagne?
Mais c'est vrai que il y a quelque chose d'assez incompréhensible à voir des partis qui hier portaient des candidats qui se disaient irréconciliables et qui affirmaient des lignes parfois radicalement opposées. Ces candidats, ou en tout cas les partis qui les soutenaient aujourd'hui, cherche à faire des alliances. Donc évidemment, ça fait partie des choses les plus insupportables du point de vue de l'opinion publique. Et en même temps, j'ai envie de dire, si vous regardez par exemple l'union qui s'est faite à gauche, ça correspond, cette union, à une aspiration profonde de l'électorat de gauche depuis de nombreux mois, et on le mesurait dans les enquêtes d'opinion.
Est-ce que vous pensez justement que cette alliance récemment baptisée NUP, elle a une belle espérance de vie ? Certains disent que, voilà, après les législatives, ça pourrait se déliter parce que chacun va vouloir reprendre ses billes en quelque sorte.
Ah, ça, c'est la grande question. On imagine mal d'anciens socialistes qui ont voté sur certains éléments à l'opposé de ce qu'avait voté la France insoumise depuis 5 ans, trouver d'un seul coup des accords sur tous les points. Néanmoins, je rappelle que dans près de 9 cas sur 10, la France insoumise avait voté de la même manière que le Parti socialiste. Donc il n'y a pas non plus, au sein de la gauche, des différences qui sont aussi importantes que ce que l'on pourrait imaginer. Mais ça reste une question qui est ouverte. Hein. Les deux cas de figure sont possibles, c'est-à-dire un parti socialiste qui s'autonomiserait à nouveau une fois qu'il aurait acquis un certain nombre de députés.
Bah, d'ailleurs, 15, s'ils en ont 15, effectivement, ils peuvent reprendre leur indépendance quelque part.
Oui, et d'ailleurs, probablement qu'avec l'accord qui a été passé, et selon les premières projections sondagères, ils parviendront à dépasser les 15 députés. Néanmoins, si cette opposition-là veut peser, et elle en a le potentiel, hein. D'après les sondages, on est quand même entre 100 à 170 quasiment députés de cette nouvelle union de la gauche possible à ce stade. Si elle veut peser, elle a besoin d'être unie. Donc la question reste entière. Et évidemment, pour Emmanuel Macron, avoir une opposition qui peut représenter entre 100 et 170 députés, ça n'est pas anodin.
Alors vous qui êtes spécialiste de l'analyse de l'opinion et de la communication publique, que pensez-vous de la stratégie de communication de Jean-Luc Mélenchon qui est très offensive ? Moi, Premier ministre, bonne ou mauvaise pioche selon vous ?
Alors c'est à la fois un coup de génie parce que ça simplifie un scrutin qui parfois est perçu comme compliqué puisque chaque électeur dans sa circonscription a une offre qui est parfois pléthorique avec des étiquettes qu'il comprend plus ou moins, qu'il connaît plus ou moins, des alliances qu'il a parfois du mal à décrypter. Donc ça permet de simplifier l'enjeu en disant bon bah l'enjeu de cette élection, quelle que soit la circonscription dans laquelle vous vous situez, c'est d'élire un premier ministre. Donc ça c'est le coup de génie et en même temps ça a son effet pervers qui n'est pas mineur, c'est de potentiellement créer un front anti-Mélenchon, puisqu'on sait que Mélenchon est une personnalité qui est très clivante dans notre pays, et que sur la base d'un rejet de Jean-Luc Mélenchon, on peut avoir un vote utile au second tour de la législative pour faire barrage à ses candidats. Puisqu'à ce stade, ils sont près de 300 à pouvoir éventuellement accéder au second tour, ce qui est beaucoup.
Alors, si je reprends ce qui est écrit dans votre ouvrage, vous dites « Si nos politiques sont si médiocres, si le climat autour de ce monde de plus en plus haï se détériore, c'est en bonne partie à cause de nous les citoyens. Pour vous, il y a des choses qui ont changé quand même dans l'approche justement qu'on a de nos politiques et c'est à nous de faire la transformation finalement ?»
Oui, c'est-à-dire que au fond, on vit en démocratie, il n'y a pas de confiscation du pouvoir et les élus que nous avons n'ont pas accaparé le pouvoir par des moyens détournés. Et donc au fond, je cite dans mon livre de nombreux exemples, mais au fond, lorsque on se plaint d'avoir des politiques qui sont ici inefficaces, là parfois même corrompues ou condamnées, il faut toujours revenir à la donnée de base qui est qu'ils ont été élus par nous, ou en tout cas élus sans nous, c'est-à-dire pour les abstentionnistes, les gens se sont abstenus, donc ont laissé d'autres choisir à leur place. Et il me semble qu'on a trop souvent tendance à simplifier les choses en disant « mais les politiques tous pourris et tout est, et ils sont responsables de tout », mais en réalité, nous avons une responsabilité et dans le scrutin qui se profile pour les législatives, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on aura potentiellement 50% d'abstention. Ça veut dire que la moitié d'entre nous choisissons délibérément de laisser à l'autre moitié le choix de l'avenir, puisque l'Assemblée nationale, c'est quand même une élection extrêmement, extrêmement importante. Et donc, il faut toujours garder cette responsabilité citoyenne à l'esprit.
Parce que vous dites, il y a des difficultés pour nos politiques. Il y en a trois, selon vous. La défiance, on vient d'en parler, l'accélération du temps. Vous dites auparavant, même à Mitterrand, se ménager des moments, il allait jouer au golf pour décompresser. Aujourd'hui, ça passerait pour un manque de sérieux. C'est ça aussi, quelque part. Voilà, il y a une accélération du temps, de l'instantanéité qui fait que tout se sait très vite aussi. Donc, on ne peut plus rien faire. Enfin, ces politiques sont sans cesse exposées.
Oui, et ça conduit d'ailleurs un certain nombre de... Enfin, la pression quotidienne que nous, citoyens, exerçons sur les politiques, à travers les réseaux sociaux notamment, mais aussi à travers les médias, les chaînes d'infos en continu, cette pression-là, ça les amène souvent à privilégier l'agitation à l'action. Et donc, il vaut mieux faire une annonce tout de suite, répondre à la polémique, plutôt que de prendre le temps, qui est quand même parfois nécessaire, de travailler sur le fond et de comment dire, de conduire des actions qui produiront sans doute des résultats dans un certain nombre de mois, voire d'années. Mais ce temps long, en fait, est en train de s'éclipser au profit d'une gestion de l'urgence, de l'immédiateté et donc d'une communication qui est nécessairement superficielle.
Ouais, et avec un paysage politique complètement transformé hein, ces derniers mois. Et parlons tiens, des Républicains justement en reconstruction après l'échec de Valérie Pécresse. Selon vous, comment est-ce que la droite peut se réinventer? Est-ce qu'il y a encore de la place finalement pour cette droite quand on voit la fragmentation dont on vient de parler?
Le grand problème de la droite, à mon sens, sur un grand nombre de sujets, ça n'est pas tellement une défaite idéologique, puisqu'on voit que sur des sujets comme le sujet régalien, comme l'immigration, l'opinion est plutôt majoritairement sur des positions qui sont celles qui sont historiquement portées par la droite, voire parfois même de l'extrême droite. Le problème de la droite aujourd'hui, c'est que sa meilleure incarnation, n'est pas issu des Républicains, c'est Emmanuel Macron. Du point de vue de beaucoup d'électeurs aujourd'hui, y compris d'électeurs des Républicains, Emmanuel Macron est finalement un président qui a réussi à faire ce que la droite historique n'avait pas osé faire jusqu'ici. Et donc, le défi du parti Les Républicains, qui est légataire un peu de cette histoire de la droite, c'est quelque part de déloger Emmanuel Macron de son nid, parce qu'il avait fait, en fait, il a adopté en quelque sorte la stratégie du coucou. Et donc, ça veut dire trouver une incarnation, sans doute, rôle que Valérie Pécresse n'est sans doute pas parvenue à assumer, une incarnation qui soit forte et qui soit crédible et qui soit en même temps nouvelle. Donc, mais de ce point de vue-là, c'est sans doute la même chose à gauche. La capacité des uns et des autres à se renouveler et à trouver des incarnations fortes et nouvelles sera déterminante pour les 5 ans qui viennent.
Eh bien, merci beaucoup, Chloé Morin, de nous avoir accordé quelques minutes ce soir dans les débats d'Europe Soir. Je vous rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre « On a les politiques qu'on mérite » aux éditions Fayard. Merci beaucoup, Chloé Morin.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Europe Soir Weekend, Céline Géraud.
Allez, de retour sur Europe 1 jusqu'à 20h, les débats d'Europe ce soir avec Julien Aubert, le député LR du Vaucluse qui brigue un nouveau mandat et qui se verrait bien à la tête du parti. Il est avec nous. Bonsoir Julien Aubert.
Bonsoir.
Merci d'être là. Alors, vous ne cachez pas vos intentions. Hein. Vous êtes intéressé par la présidence du parti, candidat donc à la succession de Christian Jacob, qui a indiqué qu'il ne se présenterait pas aux législatives dans sa circonscription. Il risque aussi de quitter la présidence du parti dans la foulée. Vous menez donc deux campagnes simultanément.
Non, j'ai dit que j'étais intéressé par la présidence. La question de la candidature viendra après, parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'il y a une élection législative.
Absolument.
Et qu'évidemment, il faut avoir le soutien de ses propres électeurs pour espérer aller au-delà. Et puis ensuite, j'ai aussi expliqué que il faut, si vous voulez, que la droite apprenne le sens du collectif. Donc, c'est pas un projet personnel, ça ne doit pas être un projet personnel. Ça doit être aussi le fruit d'une réflexion sur comment doit s'écrire cette nouvelle page des Républicains avec les autres personnalités qui animent notre mouvement.
Alors, vous aviez déjà concouru pour ce poste en 2017 et en 2019, mais la concurrence risque d'être redoutable. Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, Rachida Dati, David Lisnard, Aurélien Pradier, il y aura sans doute du monde. Quelle est votre plus-value, votre marque de fabrique, Julien Aubert?
Bon, j'ai effectivement un peu d'expérience, puisqu'en 2019, j'avais pas eu des parrainages. En 2017, je n'avais pas eu des parrainages contre Laurent Wauquiez. Et en 2019, je les avais eus contre Christian Jacob. Deuxièmement, il y a, si vous voulez, un projet différent d'organisation. Je crois que le parti unique est mort. Je pense que l'alliance de la droite et du centre dans une seule structure, ça n'est pas possible, parce qu'on voit bien qu'en réalité, les gens ont du mal à nous situer. Donc moi, je plaide pour d'abord le retour à une ligne claire gaulliste, on va dire plutôt ce qu'était l'ancien RPR, et avec une organisation d'un parti frère qui nous serait lié et qui représenterait peut-être une droite plus libérale, plus européenne, en fonction de débats internes qui nous amèneront à nous demander quelle est notre identité. Mmh. Et donc voilà, donc c'est, si vous voulez, d'abord le choix d'une ligne, le retour, si vous voulez, à un mouvement populaire qui parle à tous les électeurs, qui reviennent aussi sur certains dogmes qui ont été ceux de la droite depuis 20 ans. Je pense notamment à son adhésion aux théories néolibérales qui l'ont amené à parfois faire des réformes qui se sont très mal passées. Et puis deuxièmement, et bien c'est une autre organisation.
Alors, vous vous définissez vous-même comme un gaulliste, c'est guinot-pascoyen, on peut dire ça, eurosceptique. Vous avez soutenu Éric Ciotti durant la primaire. Vous incarneriez donc la ligne conservatrice du parti, mais vous prenez une stratégie d'ouverture, c'est-à-dire ?
Ben moi, si vous voulez, je ne suis pas quelqu'un de sectaire. J'ai effectivement des idées très carrées. J'ai travaillé avec Laurent Wauquiez malgré le fait de m'être affronté à lui. J'ai soutenu Éric Ciotti. J'ai soutenu aussi Valérie Pécresse. Hein. J'ai fait sa campagne malgré le fait que ce n'était pas ma candidate. Donc, si vous voulez, mon historique montre que je suis capable de fonctionner avec des gens qui pensent différemment. Maintenant, je crois qu'il faut être clair sur une ligne majoritaire, voilà, qui est distincte parfois de ce que même certains, ce que vous pouvez appeler le conservatisme. Mmh. Parce que, en réalité, le problème aujourd'hui des Républicains, c'est que sur les questions de pouvoir d'achat, beaucoup des classes populaires et modestes ne se sentent pas représentées. Et on est dans un contexte où Emmanuel Macron a pris des décisions qui sont en train d'impacter très durement la population. Donc nous devons être, si vous voulez, un parti de protection de ces classes populaires, de leur défense, la protection des personnes, mais aussi la protection de la question sociale. Et on a trop évacué ce sujet. Puis après, vous avez effectivement la question de l'ouverture. Ça va être un rassemblement large. Parce que sur ces questions-là, bien, vous pouvez aussi avoir des gens qui ont voté parfois pour d'autres formations et qui pourraient se retrouver dans ce programme.
Comme Nicolas Dupont-Aignan ?
Nicolas Dupont-Aignan, c'est le plus proche, c'est-à-dire c'est effectivement quelqu'un qui a beaucoup défendu la nation. Voilà. Mais vous avez aussi des gens qui aujourd'hui, mettons-nous à la place d'un électeur de gauche qui se retrouve, est attaché à la laïcité et quelque part hanté par la montée du communautarisme, du wokisme, et qui n'a d'autre choix finalement que le social-libéralisme d'Emmanuel Macron ou la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Bien, je crois qu'il y a des choses en commun. Ouais, il y a des désaccords, évidemment, il reste un clivage droite-gauche, mais il y a en commun la défense de la nation. Si je devais résumer ma pensée, c'est que les Républicains doivent défendre la nation qui est indissociable, de la République.
Et selon vous, Julien Aubert, député LR dans le Vaucluse, l'ancrage territorial, est-ce qu'il est toujours aussi puissant? Est-ce que vous allez pouvoir tenir face au forcing de la gauche populaire NUP récemment créé?
Mais ça, c'est de la propagande. En réalité, quand vous voyez justement les scores de la France insoumise, vous vous apercevez qu'elle est concentrée dans une quarantaine de circonscriptions, qu'elle dépasse les 20% dans une centaine de circonscriptions. Donc l'épouvantail Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, est en réalité une farce. Les électeurs ne doivent pas se laisser piéger en pensant que ça pourrait être une réalité.
Oui, mais je suis d'accord avec vous. Vous dites épouvantail, effectivement. En tout cas, il occupe la scène médiatique. Hein. Pour l'instant, les LR, les Républicains, vous êtes en reconstruction, certes, mais en termes d'incarnation, personne ne se retrouve pour l'instant. C'est tout le problème.
Justement, c'est pour ça que je vous remercie de m'inviter ce soir. Ça permet de montrer que au-delà de la crise que nous avons subie, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui est derrière et qui est prête à se retrousser les manches et à proposer quelque chose de différent, ce qui est essentiel. Et ensuite, pour finir sur la NUPES, en fait, vous avez une alliance hétéroclite. Sa base électorale est composée de gens, vous avez, on ne le dit pas assez, toute une part de gens qui réfléchissent sur un vote communautaire. Certains prédicateurs ont appelé à voter Jean-Luc Mélenchon, mais de l'autre, vous avez des jeunes ruraux dans ma circonscription qui n'ont pas voulu voter Marine Le Pen, mais qui voulaient, je dirais, un vote d'adhésion à la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, mais ils n'ont pas grand-chose à voir. Donc en réalité, ce socle de Jean-Luc Mélenchon est assez assez hétérogène, sans compter d'ailleurs les électeurs socialistes qui ont préféré voter utile pour essayer d'avoir un candidat de gauche au second tour des élections présidentielles.
Ça veut dire que pour vous, quand vous parlez d'épouvantail, selon vous, la NUP ou la NUPES, hein, ça dépend comment on décide de l'appeler, n'a pas une existence viable, elle pourrait se déliter gentiment après les législatives, c'est une posture électorale
évidemment, c'est l'alliance de la France Insoumise, du PS, du PCF, c'est souvent les sièges, il faut sauver Willy. Sauf qu'à la fin, tout le monde a compris que ça ne ferait pas une majorité. D'abord parce qu'il a fallu faire des contorsions avec des gens qui ne sont pas d'accord. C'est une espèce de grande auberge espagnole qui débouchera sur plusieurs groupes. Donc il n'y a aucun ciment. Sinon, l'effet psychologique qu'a constitué la qualification, la troisième place de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Voilà. Et effectivement, il est utilisé par le pouvoir en place pour faire peur aux Français en se disant on va du coup voter pour le parti majoritaire par peur d'avoir Jean-Luc Mélenchon. Mais tout ça est un gigantesque piège.
Et le piège de dire je veux être Premier ministre, troisième tour social, on en a beaucoup parlé. Hier, il annonce qu'il ne sera pas candidat dans sa circonscription à Marseille. Un chef de parti qui n'est pas un élu, ça vous dérange ?
Oui, parce que finalement, il est assez macronien. Emmanuel Macron a choisi des premiers ministres qui n'étaient pas issus du Parlement. Jean-Luc Mélenchon, qui est issu de l'Assemblée nationale, aurait pu dire « je veux être Premier ministre ». Bon, il a dit « vous allez élire votre Premier ministre », ce qui est une conception assez baroque de la Constitution de la Ve République, mais on comprend ce qu'il voulait dire, mais en n'étant pas au Parlement. C'est quand même étrange. Et puis, quand il parle du troisième tour social, il va falloir à un moment donné qu'il se décide pour savoir de quel côté de la barrière il est. On ne peut pas être du côté des manifestants et du côté de la police. On ne peut pas être à la fois le Premier ministre et le premier syndicaliste de France. Et d'ailleurs, si on aspire à être le Premier ministre, ça veut dire qu'il faudra aussi avoir un peu de considération pour nos forces de l'ordre, qui souvent servent de punching ball à des excités en marge de certains cortèges.
Et là, actuellement, vous êtes en campagne dans le Vaucluse.
Quels
sont les retours de terrain que vous avez ?
Sur ma personne, si vous voulez, les gens regardent d'abord le bilan. Vous savez, une élection législative, il y a une part de local. C'est d'abord un homme, une femme, un enracinement, un bilan. Vous tissez un lien particulier. Et aujourd'hui, dans cette époque très déracinée où on a de plus en plus tendance à parachuter des gens ou à parler de la proportionnelle d'ailleurs qui déracinera encore plus les élus, eh bien en milieu rural en tout cas, les gens sont attachés à quelqu'un qu'ils connaissent et dont ils ont l'impression qu'il est utile et qu'il est proche d'eux. Ensuite, sur la politique générale, les Français de droite sont inquiets. Ils sont inquiets parce qu'ils ont vu les résultats de l'élection présidentielle. Ils ont peur que les Républicains disparaissent. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je leur ai fait ce message en disant il y en aura d'autres, mais ne vous inquiétez pas, il y a une génération qui arrive. Et puis ensuite, vous avez, une forme d'incompréhension. Bon, on voit bien les candidats Reconquête qui sont parachutés un peu partout. Moi, les gens de droite me disent on a bien compris exactement quelle était la Reconquête. C'est-à-dire que si c'est pour faire de la Reconquête sur des circonscriptions qui sont déjà de droite, c'est pas vraiment l'union des droites, c'est la division des droites. Donc ils ont un peu de mal à comprendre, si vous voulez, la stratégie des uns et des autres.
Eh bien, merci beaucoup. Vous restez avec nous, bien sûr, Julien Aubert. On se retrouve dans quelques instants pour prolonger l'échange autour, justement, de ce parti Les Républicains en reconstruction. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Céline Géraud.
Allez, jusqu'à 20h, on est ensemble sur Europe 1 et on est bien. On parle politique, tiens, avec Julien Aubert, député LR, en campagne dans le Vaucluse. Vous briguez un nouveau mandat, Julien Aubert, on l'a dit, vous aimeriez bien, pourquoi pas, prendre la tête des Républicains. Alors, vous prenez l'ouverture, vous l'avez expliqué il y a quelques minutes, ça veut dire que vous pourriez aller vers Reconquête, par exemple ?
Vous savez, je crois que toutes ces réflexions sur les combinaisons de partis sont une impasse. Regardez ce qui est arrivé avec Emmanuel Macron. Il n'a pas dit « je vais bâtir un nouveau projet en faisant le parti radical de gauche, en faisant une alliance avec je ne sais qui ». Il a proposé un projet aux Français directement et c'est ça qui a créé une dynamique de rassemblement. Il a fait exploser les barrières. Donc plutôt, si vous voulez, que de réfléchir sur des alliances, des accords, des rapprochements, alors qu'il y a d'ailleurs des divergences notables, eh bien, je crois qu'on devrait d'abord expliquer qui nous sommes, ce que nous voulons pour le pays, et vous verrez que ça déclenchera une dynamique de rassemblement bien plus puissante que tout ce qu'on peut imaginer en termes de l'ego.
Donc ça veut dire que Reconquête pourrait vous rejoindre, et ce ne serait pas vous qui tendiez la main.
ça veut dire que moi, je ne me positionne pas par rapport aux uns et aux autres. J'ai d'abord un projet pour la France. On bâtit d'abord sur une identité, sur une ligne. Et ensuite, on parle aux électeurs. Et ensuite, c'est aux électeurs de se décider. On verra bien si, justement, la nouvelle proposition qu'on leur fait nous permet d'émerger comme la seule force d'alternance. Je crois qu'en réalité, ce sont les Républicains qui, dans le schéma actuel, ont la promesse d'une alternance. Parce que tout le monde aura compris que au second tour, Marine Le Pen a cette espèce d'effet barrage. Elle s'est prise à plusieurs reprises, mais ça ne provoque pas d'alternance. La France insoumise, on a bien compris que c'était aussi l'épouvantail. Quant au projet d'Éric Zemmour, effectivement, il a connu une grande prospérité médiatique. Mais électoralement, ça n'a pas été non plus la réussite qu'il a peut-être fait vœu. Et donc, pour pouvoir bâtir une alternance, pour pouvoir apporter aux gens des résultats, parce que c'est ça qu'on attend, c'est pas seulement des grandes idées, c'est des résultats. Aujourd'hui, les Français sont en attente d'un changement de politique. Et il n'y a que les Républicains qui peuvent les amener, à condition évidemment de changer aussi et de reconnaître les erreurs que nous avons pu faire par le passé.
Alors, vous avez soutenu Éric Ciotti, vous l'avez dit, durant la primaire. Vous incarnez la ligne conservatrice de ce parti. Ça veut dire que vous aimeriez bien avoir Éric Zemmour à vos côtés à l'Assemblée nationale s'il est élu député ? Il a annoncé qu'il se présentait ce matin dans la 4e circonscription du Var.
Non, il y a un candidat Les Républicains dans le Var et j'espère qu'il sera élu. Vous savez, vous parlez de conservatisme. Je me suis positionné parfois sur certains sujets de société parce que je considère effectivement qu'ils sont instrumentalisés et que ça en dit long sur, la manière dont notre civilisation aujourd'hui parle de la vie, de la mort et de choses parfois très intimes en les rendant politiques alors qu'on ne devrait pas les rendre politiques. Mais ce serait, à mon avis, une erreur de penser que quand on se dit gaulliste, on est un conservateur. Au contraire, il y a une forme aussi d'embrassement du progrès et de pensée sociale, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas limiter, si vous voulez, tout notre débat aux questions de sécurité ou aux questions d'identité. L'identitarisme, c'est ce qui vous reste quand vous avez perdu toutes vos batailles et que vous vous interrogez sur ce que vous êtes encore. Mmh. En fait, la vraie bataille, c'est la bataille de la reprise de son destin et c'est la bataille du partage de la richesse dans un pays où des millions de Français sont confrontés tous les jours à des problématiques bien plus réelles que la présence d'un tel ou tel à l'Assemblée nationale, c'est savoir comment ils vont boucler leur fin de mois, comment ils vont gérer la crise de l'énergie, ou comment ils vont transporter demain leurs enfants à l'école. Et c'est ces questions-là qui doivent nous intéresser.
Alors Julien Aubert, un député LR en campagne dans le Vaucluse, sur Europe 1, vous le dites, vous ne voulez pas donc basculer dans ce gauchisme antilibéral ou l'identitarisme frileux. Vous pensez donc que vous pouvez quelque part recréer, réinventer une droite façon RPR ?
Oui, mais vous savez, par exemple, quand on pense, on est souvent en matière économique coincé entre l'augmentation des salaires ou la baisse des charges. Bon, je crois qu'on va vers une société d'inflation où on va pouvoir effectivement augmenter les salaires et il le faut si on veut donner une incitation au travail. Mais il y a aussi une réflexion à avoir, et c'est une réflexion qui courait dans les années 60-70, sur la manière dont les salariés doivent également devenir les acteurs de leurs entreprises, obtenir des dividendes beaucoup plus massifs, c'est ce fameux intéressement, la participation, mais pas la limiter à une part réduite de la rémunération. C'est considérer qu'effectivement, ils doivent être des actionnaires à part entière. Et ceci, c'est un combat qu'on peut mener dans les grandes entreprises. On peut aussi avoir une réflexion sur les petites entreprises en incitant à la création de nouvelles entreprises qui seraient partagées à 50% entre des salariés et ceux qui possèdent les idées, les brevets ou le capital. Vous voyez, il faut inciter à un changement et une évolution de notre économie. Et puis, il faut réindustrialiser. Et pour réindustrialiser, il faut s'interroger sur nos normes et notamment sur nos normes écologiques. À un moment donné, il faut être clair avec les gens. Vous n'obtiendrez pas le rapatriement de vos usines pour fabriquer du Doliprane si vous pouvez avoir 10 recours contre telle ou telle émission. Donc à un moment donné, il va falloir, si on veut réindustrialiser, se poser la question des normes et de la bureaucratie dans ce pays.
Alors le LR se représente dans 543 circonscriptions sur 577 possible. Mais il faut bien le dire, Julien Aubert, le score désastreux de Valérie Pécresse, ce n'est pas facile à assumer, y compris sur le terrain. Pour ces sièges de députés que vous allez conquérir, est-ce que cette débâcle de la droite républicaine aux élections présidentielles ne va pas peser sur vos ambitions, justement, de conquête ?
elle pèse, si vous voulez, psychologiquement, parce que c'est, le dernier marqueur. Mais en fait, chaque élection est différente. Vous savez, il y a une ville dans les Yvelines qui s'appelle Aubergenville. Dans cette ville de 12 000 habitants, Valérie Pécresse a fait 52% au régional. Et au présidentiel, 6 mois ou 7 mois plus tard, elle a fait 6%. La même personne a obtenu des scores extrêmement différents à quelques mois d'intervalle. Donc vous comprenez bien que deux personnes différentes, sur des scrutins différents, obtiendront des scores différents. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'après l'échec des européennes, nous avons eu les succès des municipales, voire des régionales. Donc si vous voulez, sur une régionale, on est capable d'avoir des sortants qui font 35%. Vous imaginez bien que sur une législative dont la circonscription est plus petite, c'est aussi évidemment atteignable.
Alors, quand je parle de difficultés sur le terrain, je parle évidemment de séduction, de conquête, mais aussi de crédibilité, même par rapport aux banques, parce qu'on l'a expliqué, hein, c'est compliqué pour certains députés de décrocher un prêt, d'obtenir des financements, parce que justement, ils sont moins, entre guillemets, bankable qu'il y a 5 ans. Auprès des banques aussi, ça compte. Alors je sais que le parti a donné à chaque député une enveloppe de 5 000 euros pour participer justement à la campagne, et ça coûte beaucoup plus cher que ça, une campagne.
Oui, la démocratie coûte cher, et ceci d'ailleurs devrait nous instruire pour l'avenir. Il y avait une promesse de banque de la démocratie d'Emmanuel Macron, une promesse qui s'est volatilisée en cours de mandat. Mais vous savez, sur les assurances, c'est très difficile d'assurer un local, c'est très, très difficile d'obtenir un emprunt, même quand vous êtes, comme vous le dites, bankable. Donc ça pose un vrai sujet parce que c'est en train de tuer l'emploi de la démocratie. Maintenant, je crois, si vous voulez, qu'il faut pas céder à la panique. La dernière fois, il y a eu une vague en marche très forte et vous avez d'excellents sortants qui ont été déracinés parce que les gens ont voté pour quelqu'un qui est un inconnu qui apparaissait à côté d'Emmanuel Macron. Ça ne sera pas le cas cette fois-ci. Il n'y a pas du tout le même enthousiasme. Et donc, quand vous avez des candidats de droite qui sont enracinés, qui sont maires, qui sont conseillers départementaux, que les gens connaissent, bien vous verrez qu'ils feront leur score et que leur score sera très différent de ce qu'on a pu observer 2 mois avant.
Est-ce qu'ils ont encore la foi, Julien Aubert, député LR dans le Vaucluse, aujourd'hui, ces députés dont vous parlez, avec tout ce qui s'est passé, avec toutes les secousses qui agitent votre parti actuellement?
Mais oui, ils ont la foi. Vous savez, quand vous succédez à une défaite, une conflagration comme on l'a vécu, et que vous allez à la guerre, un mois plus tard, et que vous y allez, comme moi j'ai en Vaucluse Dominique Brogy à Avignon, dans une ville très compliquée, Elisabeth Amoros qui est en face d'elle, M. Rigaud qui vient de se parachuter de Reconquête, sont des gens qui ont la foi et ils ne lâchent pas, je dirais, un gravillon de ce combat, parce qu'ils estiment que c'est indispensable. Si nous disparaissons, les Français seront coincés avec un grand parti central, d'accord, qui fera toujours la même politique, et ils arriveront au présidentiel, et on leur proposera la peste ou le choléra en face. Et ça ne peut produire qu'une explosion sociale à brève échéance dans la rue, ou alors, effectivement, un jour, que les Français fassent le saut dans le vide, parce qu'ils seront déprimés par, je dirais, la politique qui aura été menée.
Allez, une dernière question pour vous, Julien Aubert, député LR dans le Vaucluse. Vous avez des ambitions donc pour prendre la direction de ce parti, les Républicains. Ça veut dire que vous vous projetez déjà, pourquoi pas, en 2027 sur la candidature pour la présidence de la République?
Pas du tout.
Ah bon?
Non.
S'il n'y a plus de primaire et si le chef du parti est le candidat naturel pour l'élection présidentielle, ce serait vous si vous êtes élu.
Vous savez, l'ambition est quelque chose est un moteur fort. Mais il faut avoir des ambitions à la hauteur aussi de ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, nous sommes un parti qui a des problèmes de financement. Nous avons tout à reconstruire. Nous avons renoué un lien de confiance avec les Français. Et comme je vous l'ai dit en introduction, il faut jouer collectif. Et donc c'est le mieux placé qui devrait y aller. Et nous pouvons avoir en 5 ans à la fois la possibilité d'abord de reconstruire jusqu'aux européennes et ensuite de déterminer bien avant la présidentielle lequel d'entre nous sera amené à porter les couleurs de la droite, d'une droite populaire, républicaine, sociale et libérale.
Eh bien merci beaucoup Julien Aubert, député LR en campagne, donc dans le Vaucluse. Bon courage justement pour cette campagne à vous. Merci d'avoir passé quelques minutes avec nous ce soir dans les débats d'Europe Soir. Et puis bonne soirée, dans quelques instants, merci. C'est le studio des légendes avec l'incontournable Lionel Rousseau. Salut à tous.
Europe Soir Weekend. Céline Géraud.